Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Marie, donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est cette envie d'élargir son regard sur le monde à travers des expériences de vie. Donc j'aime bien donner la parole à des écrivains, des réalisateurs, des photographes, des voyageurs, tous ceux qui sont en lien avec cette notion du mouvement de l'ailleurs et des rencontres. Donc Marie, on se retrouve sur un festival ici, le Mantre à Joie. Tu es bénévole et on mangeait ensemble et j'entends parler autour de la table de différentes expériences de vie et tu partages quelques miettes de la tienne à ce moment-là où tu dis que tu habitais en Inde dans un ashram. Donc dans cette émission, on parlera de cette vie dans un ashram qui est quand même quelque chose d'un peu particulier. Donc déjà, on définira ce que c'est qu'un ashram. Mais avant de nous emmener avec nous en Inde, je vais quand même revenir à toi, Marie, et peut-être enfant. Comment tout ça a commencé? À quel moment est-ce que tu as su que tu voulais peut-être voyager? Et peut-être qu'il y a eu d'autres voyages avant, je sais pas. Donc parole libre, raconte-nous un petit peu qui tu es et ce qui t'a donné envie d'être en mouvement.
Bonjour, merci de me recevoir et tout, c'est chouette. Alors enfant, en fait j'ai pas mal voyagé avec mes deux parents qui étaient séparés et qui nous ont fait faire des voyages à mes frères et moi à partir de mes, je pense, 8 ans. Et donc il y a eu l'Autriche pour randonner avec mon père qui était un grand randonneur. Il y a eu les îles grecques avec ma maman, un des premiers voyages. L'Égypte que j'ai... Bref, je ne vais pas te raconter toute l'histoire, mais en fait, mes frères ne voulaient pas venir et ma mère et moi, on s'est dit, mais nous, on y va, quoi. Et en fait, c'était incroyable et on a rencontré... on s'est fait des amis. C'est encore une de mes meilleures amies, j'avais 10 ans. Et je me suis entendue donc avec elle et ma mère, avec ses parents, qui étaient un ambassadeur et sa femme. Et donc après, nous, on a voyagé partout où ils étaient, quoi. Donc je suis allée voir cette amie au Sénégal, en Pologne, et reçue voilà, chez monsieur l'ambassadeur, donc avec vraiment des expériences locales qui étaient chouettes aussi.
Et donc le voyage, c'est vraiment quelque chose qui te suit depuis très longtemps.
Tout à fait, ouais. Et je pense que ça a vraiment, ça m'a donné envie d'apprendre les langues aussi. J'ai une grand-mère qui était autrichienne, donc à l'école j'ai fait allemand, LV1. Tu sais, c'est la première langue que j'ai apprise, et quelque part ça m'a emmenée en Allemagne. Et... j'ai décidé d'étudier, en fait, j'ai fait une école de commerce européenne, surtout parce qu'il y avait le mot « européenne » dedans et que j'allais faire des voyages. C'était surtout parce que j'adorais les langues et je sais pas, j'aurais pu faire des études de langue, mais c'est pas ce qu'il m'a dit. Et voilà, ça m'a fait voyager aussi. Et en fait, dès que j'ai eu, même pas 20 ans, à 20 ans, je me suis installée, je suis allée à Berlin, où j'avais déjà passé 6 mois en Erasmus et j'y suis allée pour un stage de fin d'études qui est devenu un boulot. Et en fait, j'ai vécu 7 ans à Berlin, entre mes 20 et 27 ans à peu près. Après, je suis... bon, il y a eu plein de voyages hein, dans ce temps-là, surtout Berlin, c'est une ville qui est très internationale. Donc moi, je commence à avoir des amis un peu partout, à voyager avec les amis, à faire des mariages au Mali. Tu vois, le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage, je l'ai fait. Que des expériences comme ça, super chouettes. Et ouais, et mon père aussi, parce que du coup, quand j'étais jeune, mon père, il a vécu au Canada quand j'avais 16 ans. Donc j'avais fait un voyage là-bas aussi. Tu vois, donc c'était toujours des voyages où il y avait quand même une certaine... un ancrage. C'était pas que du tourisme. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, quand j'ai fait des voyages que de tourisme, eh ben, ça m'a pas trop plu. Une fois où je suis partie en Australie, tu vois, juste pour voyager. J'avais un mois devant moi... et j'ai fait que voyager, c'est-à-dire pas travailler sur place ou avoir des gens que je connaissais, ben ça m'a pas plu autant, même si je me disais mais c'est incroyable la chance que j'ai d'être là avec un mois devant moi, c'était entre deux jobs. J'étais avec des amis en plus allemands, mais voilà, c'était pas la même expérience. Donc moi j'adore vivre quelque part, enfin y aller et être un peu voir ce qui va se passer, quoi.
Mais donc je reviens quand même à donc Marie, enfant, tu voyages, tu fais tes études à Berlin pendant 7 ans et là donc tu étudies le commerce. Tu travailles à Berlin, donc tu y habites pendant 7 ans, tu finis tes études dans le commerce, dans le marketing, c'est ça? Tu m'as dit quoi?
En fait, je fais mes études et mon stage de fin d'études, je le fais à Berlin. Donc après ça, je me mets à travailler. Donc j'ai travaillé, vécu pendant 7 ans à Berlin avec différents jobs, des voyages au milieu, dont l'Australie, tu vois. J'ai fait une coupure de quelques mois au milieu.
Mais donc à Berlin, c'est une vie, on va dire, classique dans le sens où tu travailles, quoi. T'as un métier.
Ouais. C'est ça, ouais.
Okay. Mais Et que se passe-t-il ?
Que se passe-t-il ? Eh bien, déjà, moi, mon deuxième job, en gros, que j'ai là-bas, je travaille pour le marché français. Donc, je travaille pour une boîte allemande sur le marché français que je développe. Donc, en gros, je fais un peu tout de A à Z. Et comme c'était une super boîte, ça marche bien. Et un jour, ils me disent, Alma, on ouvre un bureau à Paris. Et moi, à cette époque-là, je faisais des allers-retours pratiquement toutes les semaines pour aller voir les clients parce que mes clients étaient sur place. Au début, je faisais beaucoup à distance, mais là, comme ça s'intensifiait. J'ai décidé d'y aller alors que j'avais passé 7 ans à dire « je ne pourrai jamais vivre à Paris ». Parce que Berlin, c'est très différent de Paris. Pour ceux qui connaissent un peu, Berlin, c'est beaucoup plus ouvert, c'est très vert. Il y a beaucoup plus d'espace. Donc la notion d'espace joue énormément sur la qualité de vie, d'après moi. Après aussi, Berlin, de son histoire, est assez alternatif, très international. Je travaillais pour des startups, donc un environnement très dynamique, très, très ouvert, dans le sens aussi où assez alternatif. Il y a beaucoup d'artistes et les gens ont vraiment une vie en dehors du travail. Donc ça, quelque part, moi, j'ai vraiment aimé la vie que j'avais à Berlin et aussi parce que c'était très connecté à la nature. Je pouvais très facilement aller camper, me baigner dans les lacs, être dans des parcs. J'allais en vélo tous les jours au travail à travers un grand parc, Tiergarten, qui est, je faisais 1 ou 2 kilomètres en vélo, tu vois, dans ce parc-là. Donc, j'avais cet équilibre. Et quelque part, je pense que du coup, ce qui m'a poussée après à faire le voyage dont je devais te parler, c'était quelque part, j'avais une sorte d'équilibre à Berlin parce que j'étais nourrie de cette alternative. Mais je sentais que ça avait ses limites, mais ça allait, quoi. Et donc là, ils me disent, on ouvre un bureau à Paris. Et moi, je dis, ok, j'y vais en soi. Bon, pourquoi pas, en fait. Mais quand même, ça m'a confrontée à la raideur de la ville, à la raideur de la vie, tous les uns sur les autres, où on ne fait que travailler, quoi. Moi, je trouvais qu'en fait, j'arrivais pas trop à connecter avec les gens. Même si j'avais des très bons amis qui étaient à Paris, donc je ne me suis pas sentie seule à cette période. Mais au-delà de ça, ouais.
Et à ce moment-là, quand tu es à Paris, donc tu bosses, mais j'imagine que tu as aussi une sphère d'intérêt, tu as un monde à toi qui est ton monde en dehors du boulot. Si tu pars en Inde plus tard, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de grandir en toi. Donc, quel est, en dehors de ton boulot, quelle est ta lumière, ta couleur, ta vibration?
Parfait pour la transition. Mais c'est, y a le yoga que j'ai commencé à pratiquer à Berlin et que je pratique pendant 7 ans avant de partir en Inde. Et en le découvrant, je trouve quelque chose d'unique pour moi dans le rapport au corps, dans le rapport à de ce que ça m'amène en fait dans ma vie. Et je sens que un jour j'aimerais transmettre ça, que c'est magique, quoi. Et du coup, je me donne le temps de pratiquer, Je me précipite pas au bout d'un an à me dire voilà, je prends le temps. Et quand je suis à Paris dans cette vie que je trouve, qui me pousse en fait dans mes retranchements. Donc en fait, je comprends que après Berlin, c'est un tremplin Paris, qu'en fait c'était Berlin c'était confortable et que là du coup non, il n'y a plus cette notion d'équilibre qui me convient, donc ça me pousse à prendre cette décision un peu radicale où en fait je quitte tout et je décide, je sais que je veux changer de vie de manière radicale, qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de vivre dans les rapports humains, dans le rapport à la vie qui m'entoure. Le mode sociétal, je le trouve, j'ai l'impression que c'est un peu un mensonge et je me dis, je sais pas comment j'ai envie que ma vie elle change, mais je rêve de vivre à la campagne, même si moi j'ai toujours vécu en ville. Donc je sais pas d'où ça sort. Ça me fait peur aussi, parce que je me dis, mais en fait, comment je vais pas m'isoler, enfin bref. Mais je me dis donc voilà, je prends un an, j'explore plein de choses. Je sais que dans cette année-là, j'irai en Inde faire une formation de prof de yoga. C'est la décision que j'ai prise et le reste c'est ouvert. Et je me dis, au bout d'un an, j'essaye de reprendre quelque chose.
Tu as quel âge quand tu fais cette transition de vie, quand tu fais le choix de tout quitter pour te réaligner quelque part, en tout cas remettre plus de sens par rapport à cet équilibre que tu trouves pas forcément dans ta vie professionnelle, matérielle et urbaine à Paris?
J'ai l'impression que tu as des petites antennes qui te font poser exactement les bonnes questions. Parce que en fait, c'est la veille de mes 29 ans, j'ai un déclic. Je me dis, enfin, là, j'ai 29 ans. C'est-à-dire qu'après, c'est 30. Bientôt, j'ai 30 ans. Et je me dis, mais en fait, j'ai toujours su que ma vie, elle allait changer, quoi, que c'était pas ça, ma vie. Mais que j'avais l'impression que je récoltais que je mettais des cordes à mon arc, en fait. Et là, je me dis, mais en fait, par contre, 30 ans, ça arrive. Et si je change de vie, c'est quand, si c'est pas maintenant? Donc, je pense que ça m'a poussé, ça m'a fait un déclic. C'était stressant au boulot, ça me plaisait moins et je sentais que j'étais pas à ma place. Donc, la veille de mes 29 ans, j'ai ce déclic. Mes 29 ans, c'est pendant le week-end. Le lundi, je dis à mon chef que je veux démissionner. Enfin, j'essaie d'avoir une rupture conventionnelle.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Allez, bah on y va dans la suite. Hein. On va parler de cette vie dans cet ashram. Dans le sud de l'Inde, à Coimbatore, l'ashram de Sadhguru. Donc voilà, comment est-ce que tu retrouves là-bas? Bon, on va commencer comme ça. Comment est-ce que tu te retrouves dans cet ashram-là?
Alors, la première fois où je suis allée en Inde, celle que je viens de raconter, en fait, c'est un enseignement qui est assez large. Il y avait de la philosophie, du yoga également. Et il nous parle de ce que c'est un maître spirituel. On lit différents textes sacrés, etc. Et il nous parle de Sadhguru notamment, qui est un maître spirituel qui est en vie, parce qu'il y a plein de maîtres spirituels qui ont donné des enseignements qu'on utilise énormément, mais qui sont plus de ce monde. Et donc, ben voilà. Puis il y avait des musiques aussi qu'on écoutait, et j'avais remarqué, ah, c'est Isha, Sounds of Isha. Donc c'est l'ashram de Sadhguru. Et donc bon, ça commence à m'interpeller. Et quand je rentre en France, en fait, très vite, je comprends que va falloir que je reparte. Hein. Mais au début, je me dis, bon, je essaie de continuer un peu mon année d'exploration comme ça. Mais voilà, j'écoute de plus en plus ces musiques et je commence à écouter Sadhguru, en fait, sur YouTube, je crois. Et là, pour moi, si je dis la vérité, je pense que c'est quand même ce que je dois faire. C'est comme un coup de foudre, en fait. Mais de l'amour qui n'est pas de l'amour, évidemment, romantique, quoi. Mais c'est un coup de foudre, je me sens... super bien, super bien, vu comment je le vois, et je le trouve, il y a quelque chose qui me touche chez lui, en fait. Et surtout, voilà, ces messages, parce que c'est encore quand même logique, hein, ces messages, ça vient parler à notre esprit logique, bah, ça me parle, quoi, ça me débloque des trucs, donc j'écoute, je l'écoute, et je commence à faire des méditations qu'il propose gratuitement sur son site. Donc voilà, ça se met en place petit à petit, je me dis, oh, c'est trop chouette d'avoir trouvé, et en parallèle, je me dis, j'ai envie de repartir en Inde. Si je veux vraiment enseigner le yoga, là, j'ai envie de creuser beaucoup plus. Moi, je trouve que d'abord, ma pratique, elle doit s'intensifier. Même si c'est assez intense, je pratique tous les jours depuis que je suis rentrée, etc. Alors voilà, je rentre assez transformée. Genre moi qui étais très bavarde, je parle beaucoup moins. Débattre, ça ne m'intéresse plus trop. Genre, voilà, j'ai pas trop envie de parler. J'ai besoin de silence. J'ai un grand besoin de silence. Je bois plus d'alcool. J'étais déjà végétarienne depuis très longtemps, mais... j'ai encore moins envie, même les produits laitiers, tout ça, j'ai envie de complètement arrêter. Parce que c'est un peu une prise de conscience. Enfin, je parle de ça, ça peut paraître des petits gestes écolo, mais c'est aussi, en fait, pour moi, c'est plutôt... je suis consciente de ce que ça génère comme problème, et notamment dans le traitement des animaux, tu vois. À la base, moi, devenir végétarienne, c'était plutôt une idée écologique. Et en fait, petit à petit, ça devient complètement aligné au fait que je ne peux pas... supporter en fait qu'on crée des vies de torture pour juste pour un petit plaisir de 5 minutes dans la bouche, alors qu'en fait il y a plein de choses délicieuses à manger à part ça. Enfin, ça c'est mon point de vue, évidemment. Donc ça devient ça. Je suis rentrée en Europe et en fait je comprends que j'ai envie de repartir. Donc je prévois quelques petits séjours dans différents lieux, dont l'ashram de Sadhguru, qui entre temps j'ai découvert qu'il y avait un programme d'ailleurs qui dure 7 mois, qui est gratuit, ouvert à tous, mais il est trop tard pour moi pour postuler, en fait, pour l'année en cours, d'accord. Donc je me dis, ben, je vais quand même y aller découvrir le lieu, puis on verra peut-être l'an prochain pour ce programme-là.
Alors avant de nous emmener avec toi dans cet ashram de Sadhguru, je veux juste un petit peu contextualiser, hein. Donc là on parle de gourou en Inde, c'est complètement différent que l'image qu'on peut avoir du gourou ici en France, hein. En Inde c'est très courant que de chercher un maître et suivre un enseignement. Comme tu le disais très justement, il y a plein de maîtres différents, la plupart sont décédés aujourd'hui, leur message perdure, et d'autres sont des maîtres vivants. Donc Sadhguru font partie de ces maîtres qu'on peut voir, hein. Tu l'as rencontré, enfin, on en a parlé dans ton centre de yoga, il y a des vidéos sur YouTube avec des teachings, des enseignements sur différentes thématiques. Et donc Sadhguru est aujourd'hui très suivi en Inde. Donc j'aimerais bien que tu me présentes un petit peu comme ça, dans quelques mots, qui est Sadhguru, et aussi que tu définisses ce que c'est qu'un ashram, hein. Quand on parle d'ashram dans cette émission, de quoi on parle?
Alors je vais commencer par l'ashram. Comme je le comprends, honnêtement, je ne sais pas si ma définition est très correcte, mais de ce que j'en ai compris, c'est un lieu qui est construit autour d'un enseignement spirituel, en fait. Il y a un enseignement spirituel avec un maître ou pas, parce qu'il peut y avoir, voilà. Le maître est là ou non, mais en tout cas, c'est un enseignement spirituel, une lignée ou une école. Et c'est un lieu de pratique pour voilà, pratiquer cet enseignement-là. Sadhguru, son ashram, je pense qu'il a une 20aine d'années. Je ne sais pas comment le présenter. Il doit avoir à peu près 65 ans aujourd'hui et il a dédié sa vie à l'enseignement spirituel. Lui-même, il a eu un éveil, je pense, autour de ses 25 ans, qu'il raconte. Et après, il a eu une quête, surtout en fait, de construire un temple de méditation qui s'appelle le Dhyanalinga. Et en fait, il pensait que ce serait juste ça, sa quête. Et pour faire ça, il a dû rassembler beaucoup d'énergie autour de lui, etc. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Et en fait, après ça, il s'est rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui s'étaient investis là-dedans. Et il s'est dit qu'il pouvait continuer, en fait. Donc voilà, à donner de l'enseignement et à organiser. Donc l'ashram, en l'occurrence Isha, c'est surtout un lieu où il y a le Dhyanalinga qui est visité par énormément de personnes tous les jours, beaucoup d'Indiens qui viennent parce que les Indiens vont beaucoup voilà, dans les temples faire des pèlerinages. Donc ce temple est ouvert et il y a aussi une partie ashram où il y a des programmes de yoga. Donc en fait, les personnes qui le souhaitent peuvent venir, 3-4 jours, on peut faire un programme et après on devient indépendant sur une pratique ou plusieurs selon le nombre de programmes qu'on fait. Ça c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans cet enseignement, c'est qu'on est tout de suite autonome en fait dans nos pratiques. Il faut 3-4 jours, enfin, c'est vraiment pas beaucoup... Donc c'est surtout ça l'activité dans le centre, organiser les programmes. Après il y a beaucoup de contenu sur internet, donc c'est aussi rendre ce contenu disponible dans plein de langues différentes. La vision de Sadhguru en fait, si je peux la résumer, j'espère vraiment ne pas utiliser les mauvais mots, mais c'est un peu de toucher un maximum de personnes avec une goutte de spiritualité en fait, de toucher un maximum, plutôt que de prendre 100 personnes et vraiment les emmener jusqu'à l'éveil. Lui il veut toucher la masse en fait. Vu un peu l'époque actuelle et les challenges dans le monde, je pense que voilà, c'est ça sa vision.
C'est un gourou moderne qui se sert des réseaux sociaux justement, qui se sert des outils technologiques actuels pour essayer de cibler le plus largement possible. Alors, tu disais, je trouvais ça mignon, tu disais tu es une sorte de coup de foudre en regardant ces vidéos, donc coup de foudre pour le personnage mais aussi pour le message. Donc voilà, quelle est la pensée de Sadhguru, quel serait le message qu'il aimerait transmettre le plus largement possible? Tu parles de spiritualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement la spiritualité ?
Voilà, tu me poses des questions qu'il faudrait penser à des maîtres. Donc moi, je n'ai pas cette prétention de pouvoir répondre à qu'est-ce que c'est la spiritualité. Honnêtement, je me pose aussi beaucoup la question. D'ailleurs, tu vois, depuis que je suis rentrée en France, moi, c'est ça la question que je me pose. Comment on vit notre spiritualité en France ? Je l'ai compris comment c'est en Inde, entre guillemets. Hein, je l'ai compris, c'est un grand mot, mais j'ai vécu la spiritualité en Inde et depuis, j'avais cette... En fait, en France, évidemment qu'on est spirituel et qu'on la vit juste autrement. C'est pas le yoga, donc je cherchais. Donc je sais pas ce que c'est la spiritualité, mais déjà aussi je voulais juste te dire le mot gourou en fait, ce que ça veut dire. Le gourou en fait c'est celui qui te montre le chemin, c'est celui qui te met la lumière sur le chemin, tu vois, comme avec une lampe torche, il t'éclaire le chemin un petit peu, c'est ça que ça veut dire gourou. C'est un joli mot en fait, d'ailleurs gourou, je crois que c'est celui qui enlève l'obscurité ou un truc comme ça.
On parlera pas plus de Sadhguru que ça dans cette émission. En tout cas, si le personnage t'intéresse, n'hésite pas à aller voir sur internet qui il est, ce qu'il transmet et ce qu'il partage. C'est ton expérience à toi, Marie, qui va m'intéresser. Donc, tu te retrouves en Inde pour la deuxième fois et tu vas rester finalement 3 ans dans cet ashram. Donc, pourquoi ? Sachant qu'en y allant, tu ne savais pas forcément ce qui allait s'y passer et combien de temps tu allais y rester.
Voilà, donc c'est ça, je savais pas, j'avais un peu de temps devant moi. Dans mon idée, je pensais que je passerais peut-être entre 6 mois et 1 an et demi en Inde pour intensifier ma pratique. Et je vais dans plusieurs lieux, je fais notamment une retraite Vipassana pour ceux qui connaissent. Et je fais le programme Inner Engineering de Sadhguru qui permet en fait d'aller à l'ashram en tant que bénévole. C'est intéressant parce que ça permet d'être beaucoup plus impliqué dans la vie quotidienne et en plus il n'y a pas de frais après, en tant que bénévole on peut rester gratuitement dans l'ashram, être logé, nourri et voilà, participer par certaines activités. Et donc là j'arrive pour 2 semaines à l'ashram et j'avais plus ou moins des plans après. Et très vite je me dis mais cet endroit c'est fou, je me dis cet endroit c'est hyper riche en fait, il y a du monde, c'est très vibrant. Il y a une énergie qui est hyper intéressante, qu'on ressent beaucoup. Et surtout, l'enseignement est partout, en fait. Dans tous les aspects de la vie, on reçoit l'enseignement. Et ça, je me dis, qu'est-ce que c'est riche. Donc, je pense que le jour 2, je me dis, mais c'est dingue ici. Moi, un jour, j'habiterai ici. J'avais eu ça à Berlin, tu vois, quand j'étais allée la première fois à Berlin. Donc, je me dis, bon, ce sentiment, j'ai l'impression que ça va être vrai. Mais en fait, à ce moment-là, je ne veux pas trop y croire. Et je me dis, c'est pas... Enfin, je me laisse aller, en fait. Je me laisse porter par ce qui arrive. Donc voilà, je fais différentes activités, je suis à un centre, il y a un petit centre pour la santé avec les méthodes de... C'est pas l'Ayurveda, ça s'appelle la Siddha, la médecine Siddha, parce que c'est une autre région en Inde, on parle pas d'Ayurveda. Donc je vois les gens arriver, vivre des choses, tu vois, on se transforme en fait, même moi, je vois ce que ça me fait. Et en fait, j'abandonne petit à petit les plans que j'avais après et je reste un peu plus. Et pourquoi je ne resterais pas 2 semaines de plus? Et tu vois, je parlais avec les responsables, allez, 2 semaines de plus, etc. Et en fait, petit à petit, je reste plus, plus, plus. En fait, Aïcha, notre pratique spirituelle, le sadhana, ça passe par le sadhana pratique, le sadhana qu'on fait sur notre tapis de yoga le matin. Donc les pratiques de yoga, le hatha yoga, des kriyas, purification, etc. Et la seva, qui est la partie service, c'est-à-dire le bénévolat. Et les deux sont hyper importants. Et en fait, c'est cool de pouvoir être calme quand t'es sur ton tapis de yoga en train de chanter Om et de faire des respirations profondes. Mais qu'est-ce qui se passe quand t'es dans une équipe de 20 personnes avec un truc hyper compliqué à réaliser, où on n'a pas forcément le matériel, on n'a pas beaucoup de temps et on a tous une envie de le faire différemment, tu vois. Surtout, il y en a des Indiens, des Américains, des Chinois dans la team, tu vois. Et on ne parle pas tous forcément la même langue. Est-ce que là, t'arrives aussi à garder ton calme, entre guillemets, ou alors qu'est-ce que t'apportes, quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu montres de toi? Et c'est ça que Sadhguru nous fait creuser, qui est hyper intéressant. Par exemple, une des phrases qu'il dit, c'est « Dans toutes les situations, est-ce que tu arrives à voir le meilleur en chacun ?» Essaie toujours de voir le meilleur en chacun. Parce que sinon, on est toujours en train de voir les défauts des gens et de critiquer, etc. Voilà, aussi, une des pratiques qu'on a sur le lieu, c'est de pas se laisser entraîner dans les ragots et la critique, tu vois, en fait. Commencer à parler des uns des autres. C'est des petites pratiques qu'on a, mais qui changent beaucoup de choses, en fait.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Continue donc. Tu passes plusieurs années en Inde, le Covid arrive, tu disais tu es donc à Isha, hein, l'ashram de Sadhguru, avec des entrées, des sorties, où de temps en temps tu vas vivre d'autres expériences un peu dans différentes régions d'Inde. Voilà, donc la question c'était 3 ans d'ashram, à un moment donné tu choisis de tourner une page ou de passer à autre chose, pourquoi, comment, et surtout j'aimerais bien savoir ce que ça a pu t'apporter de passer ce temps de ta vie dans cette seva, dans cette dynamique-là.
Alors ouais, je vais commencer par ça. En fait, moi, ce que je ressens, ce qui me fait rester et surtout ce qui me fait que je suis hyper bien là-bas, c'est que j'ai vraiment l'impression que je vais en profondeur de moi-même, en profondeur. Et qu'il y a des choses qui prennent du temps pour moi. Il y a des choses qui sont pas instantanées, tu vois. Et vraiment que d'avoir cette pratique avec cette discipline et le temps d'aller, je vais en profondeur en moi. Et dans ce que j'ai l'impression de trouver comme des réponses. Il y a pas mal de renonciations en fait qui a lieu dans ma vie à ce moment-là. Je sais même pas si je vais rentrer en France. Je sens que j'ai pas perdu mes liens amicaux, mais j'ai pas de temps en fait à investir vraiment. Je passe pas de temps à donner beaucoup de nouvelles, donc j'ai pas beaucoup de liens avec mes amis parce que je suis vraiment concentrée sur ma pratique spirituelle. Même sur place, je me fais pas beaucoup d'amis en fait parce que je pratique. En fait, je pratique et j'ai envie d'être en silence. Cette envie de silence que j'avais là, j'ai l'espace pour le vivre. Et je fais quand même des rencontres hyper importantes. Notamment, je me marie, donc je rencontre un homme avec qui, on se crée une camaraderie au début qui me permet aussi d'avoir, qui me donne une stabilité émotionnelle, qui me permet d'aller encore plus loin dans ma pratique. Et je pense, je disais ça récemment à quelqu'un, je pense que ça me permet d'aller plus loin en fait. De me dire, je ne vais pas me perdre dans la quête spirituelle. Parce que à ce moment-là, moi, je me dis, je peux devenir nonne, en fait. Tu vois, il y en a. Ça me fait un peu peur, même si, en soi, c'est une voie qui doit être très belle. Et moi, je la vois, en tout cas, belle quand je vois ces gens-là. Mais donc, voilà, je crée ce lien et je me marie, en fait. Donc, j'ai cet ancrage qui me permet de continuer parce qu'on est tous les deux dans cette même quête et on a à peu près le même rythme et on se soutient. Donc, ça, c'est un soutien qui est fort pour moi. Et donc, on est rentré en France ensemble, j'ai rencontré sa famille, il a rencontré la mienne. Donc, ça nous permet de continuer et on s'investit à plein temps à l'ashram. Ce qui fait qu'à un moment, je décide, donc, comment ça me nourrit ? Ben moi, voilà, par exemple, parce que c'est quand même important d'en parler avant de passer à la suite, mais il y a des moments où je me sens très, très libre. Tu vois, cette liberté que j'ai pu voir... Je la ressens en fait chez moi. Je lâche prise sur plein de questions. Le matériel est couvert là-bas, tu vois, t'as quelques vêtements, ça suffit. On s'occupe de ta nourriture, on s'occupe de là où tu dors. Bah, j'ai vraiment pas grand-chose, mais j'adore ça en fait. Je me rends compte que j'ai besoin de tellement peu de confort pour être bien. Parce que ce qui me donne du confort, c'est que mon corps il soit actif toute la journée, que je participe à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi et que j'ai cette chance en fait. Et que ça, moi, cette vision de Sadhguru, elle me porte et je la trouve belle. Et ben, en fait, à ma façon, je peux y participer. Alors que toute seule, tu vois, je me disais, mais là, moi, j'allais rentrer en France et enseigner le yoga toute seule en France. Qu'est-ce que ça aurait fait? Alors que là, j'ai l'impression que ça a de l'impact un peu ce que je peux faire, tu vois. Donc ça me nourrit. Et puis voilà, il y a des moments où je me sens tellement proche de la nature. Je marche sur les pierres, pieds nus. Je me sens juste tellement bien, quoi. Je peux me mettre à pleurer d'extase comme ça. Il y a des moments qui sont complètement magiques, en fait, pour moi. Et surtout, je lâche beaucoup le mental. C'est une période où Sadhguru, il explique, au début, il parle beaucoup logique. Dans ses vidéos YouTube notamment, c'est très logique et c'est très bien, c'est ça qui fait qu'au début on accroche, mais après il y a un moment où il déconstruit complètement ça. Et moi, les pratiques, le silence aussi, ça me permet de déconstruire l'intellect, qui l'intellect a certaines facultés, mais ça peut pas permettre de tout comprendre en fait. Et moi qui avais eu voilà, une approche assez intellectuelle, même mon éducation assez intellectuelle, ça me fait beaucoup de bien de pas chercher à tout comprendre en fait, parce que je ressens, voilà, je ressens beaucoup plus, je deviens beaucoup plus consciente de plein de choses, je vois beaucoup plus de choses, je ressens beaucoup plus sur toutes les dynamiques qui peuvent se passer. Mon ego aussi, qui au début me faisait vachement prendre des décisions, je sens qu'il est un peu tari, un peu, tu vois, il est un peu moins fort, et du coup bah, c'est ok quoi, il y a des choses qui sont plus fluides, parce que bah, même si mon ego est toujours là, et voilà, il y a d'autres choses qui peuvent se passer en fait. Ça, c'est un peu tout ce que je vis.
Voilà, tu vis une expérience forte. C'est compliqué d'exprimer, d'expliquer. Hein, quand on te dit « Alors, c'était comment ton voyage ?» Tu viens de passer 3 ans en Inde. Comment répondre aux 4 ans en Inde ? Comment répondre à la question de « Alors, c'était comment ton voyage ?» C'est très compliqué parce que c'est une expérience forte, personnelle. Mais quand même, c'est impactant et se pose toujours la question du retour. On revient en France avec une expérience très différente de ses semblables. Bon, souvent, quand on part, on s'adapte. Quand on revient, c'est à nous de s'adapter aussi. Mais comment est-ce qu'on fait pour retrouver sa place dans un monde qu'on a quitté ? En tout cas, le monde est toujours pas évolué dans la lumière, quoi. Donc comment est-ce qu'on revient et comment est-ce qu'on trouve un équilibre après une expérience de cette importance ?
Bah, c'est une super bonne question. J'ai pas toutes les réponses et je les cherche. Pour moi, ça a été un retour un peu chaotique parce que déjà, je me suis séparée, donc je suis en train de divorcer. Donc émotionnellement, c'est vrai que c'est une période qui est hyper compliquée pour moi. J'ai vraiment besoin de retrouver certaines choses en moi, voilà, de prendre du recul. Ma vie n'est plus du tout la même. Donc où je vais, où elle est ma place, j'ai du mal à le savoir. Et en même temps, moi, la question que je me pose à ce moment-là et qui me donne beaucoup d'espoir et qui me fait avancer, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment les Français ou en France, on vit la spiritualité ? Et je trouve plein de petites voies différentes, mais par exemple, je fais pas mal... Je vais voir des éco-villages en ce moment, des lieux où on vit en communauté. Et en fait, même s'il n'y a pas de pratique spirituelle, je vois qu'il y a très souvent, en tout cas, une volonté de relationner différemment. Avec des casser les codes, par exemple, du sexisme. Casser les codes par rapport aux privilèges qu'on peut avoir et comment chacun peut prendre sa place dans un groupe. Avoir des façons de communiquer qui sont quand même beaucoup plus paisibles, beaucoup plus... chacun être plus conscient, en fait, de soi... De ce qu'il met sur la table en s'exprimant, et ça, c'est de la spiritualité pour moi, tu vois. Tout à l'heure, on se posait cette question. Je trouve en tout cas c'est ça. Parce qu'en gros, peut-être que ça pourrait être la spiritualité, mettre un peu plus de conscience surtout. C'est pas de devenir parfait, parce que souvent dans le monde spirituel, on dit ouais, become the best version of yourself, tu sais, de devenir son meilleur soi, son soi le plus haut. Moi, je crois pas trop à ça. Évidemment, on cherche à enlever certaines couches de comportements qui sont pas bénéfiques autour de nous, mais c'est pas juste devenir un être parfait qui aurait six packs, tu vois, les abdos parfaits, qui pourrait faire des grands écarts et qui pourrait méditer pendant des heures dans le silence. C'est pas du tout ça en fait, la spiritualité. Enfin, pas du tout. Peut-être que c'est un chemin, mais au final, c'est est-ce que tu arrives à t'aimer, quoi. Moi, tu vois, je reviens à ça en fait, et je suis encore sur ce chemin-là. À quel point j'arrive à m'aimer? Et du coup, à aimer les autres. Et c'est les messages qu'on entend dans tous les cercles ici. C'est de toute façon, ça commence toujours par soi. Ça commence par soi. Et quand on commence un peu à trop à parler des autres, c'est qu'au final, il y a quelque chose en soi qui titille. Donc voilà, j'explore un peu la spiritualité en France. Moi, ma place, je ne l'ai pas encore complètement trouvée. Mais j'ai vraiment un fort besoin de m'ancrer depuis que je suis rentrée. Parce qu'aussi, il n'y a pas eu que l'Inde et ce voyage spirituel qui a été très, très... intense. Il y a eu des années avant à l'étranger, etc. Donc maintenant que j'ai vraiment pris cette décision de rentrer en France, je dois trouver où, m'ancrer petit à petit, retrouver activité professionnelle. J'ai des pistes, j'ai déjà fait des choses, mais voilà, ça prend sa place petit à petit. En fait, j'essaie d'être dans la patience aussi, faire confiance et garder ma pratique spirituelle est encore pas très intense, mais elle est là. Et je trouve l'équilibre en fait entre quelle est la place de ma pratique spirituelle pour avoir aussi un lien avec le monde d'ici, en tout cas tel qu'il est. Et voilà, c'est vraiment très intéressant. Il y a eu des moments aussi très difficiles, parce que peut-être que je suis partie un peu trop violemment, enfin peut-être trop soudainement à cause de cette rupture. Mais je serais rentrée. Et c'est en fait la question que tu posais tout à l'heure. J'avais des choses qui me manquaient quand même. Je pense pas que j'aurais pu rester dans cet ashram tout le temps. Et en fait, le lieu n'est pas fait pour ça. Le lieu est vraiment fait pour venir pratiquer, passer une période de vie. Ça peut être moins d'ailleurs, moi quelque part j'y ai passé beaucoup de temps. 4 ans c'est assez long quand même, 3-4 ans. En quelques mois déjà il peut se passer des choses. Chacun est très différent à ce niveau-là, il ne faut pas du tout se comparer. Tu passes tant de temps, tu vas obtenir ça et ça comme résultat. En fait voilà, chacun va faire un petit bout de chemin. Moi je ne suis pas du tout au bout en fait, mais je sens que j'ai fait un bloc et que là j'ai besoin d'ancrer pour pouvoir après continuer. Et j'essaye d'enraciner ce que j'ai acquis. De mettre dans la matière aussi tout ça, de me réancrer. J'ai quand même des besoins matériels, même si je sais beaucoup moins. Par exemple, j'adore dormir par terre maintenant, j'ai beaucoup de choses un peu bizarres, mais j'essaie de trouver le juste milieu entre tout ça. Voilà.
Marie, merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.